Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les jeux de rôle libres. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Ce sujet a été préparé et sera animé par Luc. Et avant de laisser la parole à Luc, j'ai une annonce importante à faire. Comme ailleurs, la domination masculine est un problème dans le monde informatique et dans les communautés libristes. Et pour ne pas entretenir ce statu quo, l'équipe éditoriale de Libre à vous, dont je fais partie, a une politique explicite inscrite dans notre charte éditoriale visant à favoriser l'intervention et donc à la valorisation des femmes présentes dans le monde du libre. Cela veut dire concrètement prendre le temps de chercher des femmes compétentes sur un sujet et de les encourager à intervenir le cas échéant. Lors de la préparation de cette émission, j'étais convaincue d'avoir demandé à Luc de trouver au moins une personne invitée femme pour parler des jeux de rôle libres. Je me suis rendu compte seulement il y a quelques jours, donc trop tard, que j'avais oublié de lui transmettre cette consigne. Je souhaite m'excuser de cette erreur auprès de notre public. Passons maintenant au sujet principal de l'émission d'aujourd'hui, jeux de rôle libres. À toi la parole, Luc. Salut.
Eh bien, merci et bonjour. Donc, on va parler aujourd'hui de jeux de rôle et de licences libres. Et avant de présenter nos invités, je vais cadrer un petit peu le sujet. Nous parlons de jeux de rôle sur table ou jeux de rôle papier-crayon, c'est-à-dire une activité ludique qui se déroule autour d'une table avec un meneur de jeu, des joueurs, des dés, et la plupart du temps, et ce genre de choses. Le jeu de rôle est édité, il y a donc des auteurs qui vont écrire des jeux de rôle, les publier, et certains d'entre eux vont faire le choix de les publier sous licence libre, et parfois sous des licences pas tout à fait libres. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et autour de la table nous avons Sébastien Célérin, qui est donc éditeur de jeux de rôle. Sa maison d'édition s'appelle Les Douze Singes, et Force the Story, qui est une autre activité d'édition dont tu vas nous parler un peu plus en détail. Nous avons également Amaury Bouchard, qui donc tient le site rollis.net. Ce site propose beaucoup de choses, donc notamment une bibliothèque de jeux de rôle sous licence libre et sous licence moins libre, en tout cas de jeux de rôle légalement téléchargeables gratuitement, des scénarios multijoueurs sous licence libre que tu édites toi-même ou tu vas chercher des auteurs, et également un magazine papier qui s'appelle Rollis Mag et un logiciel de rédaction de scénarios multijeux.
Tout à fait.
Et nous avons également Ludovic Schur, alias Xirop, qui est donc juriste spécialisé dans le droit et les stratégies open source, le rôliste évidemment, et blogueur. Donc merci à vous trois d'être venus aujourd'hui pour parler de tout ça. Et je voulais commencer donc par un petit panorama. Qu'est-ce qui existe dans le domaine du jeu de rôle et des licences libres? Amaury, j'ai regardé ton site et j'ai trouvé 71 jeux dans ton annuaire de jeux de rôle libres. Et j'en ai vu à peu près, 14. Après, il y a des doubles licences, donc c'est difficile de compter. Mais j'en ai compté une bonne quinzaine sous licence réellement libre.
Oui, il y a quand même une majorité de jeux qui sont sous licence de libre diffusion, souvent du Creative Commons qui interdit soit la modification, soit la commercialisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a deux grands exemples d'utilisation des licences libres. Ça a commencé avec l'informatique, c'est là d'où viennent les licences libres. Et le deuxième grand exemple, c'est les jeux de rôle. On a commencé en France avec Simulacre, qui était avec une licence plus ou moins libre à une époque où personne ne savait que ça existait. Et ensuite, il y a Donjons et Dragons qui est arrivé et qui a popularisé la notion de licence libre.
Ouais, Simulacre, ça devait être fin des années 90, c'est ça?
Fin des années 80, début 90.
Oui, encore plus tôt que ce que je pense.
Voilà, porté par le magazine Casus Belli. Mais donc voilà, en tout cas, ça a commencé... on pourrait dire petitement, mais l'air de rien, ça a eu un gros impact. Et le fait que Donjons et Dragons soit passé à une licence libre, ça a popularisé la notion auprès des rôlistes. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que les licences libres s'adaptent extrêmement bien à ce qu'est le jeu de rôle. C'est-à-dire, à la base, quand on fait du jeu de rôle, on prend des œuvres, on les modifie, on les adapte. C'est polymorphe et ça convient extrêmement bien aux licences libres. Les deux matchent très très bien ensemble.
Ouais. Alors tu as cité Donjons et Dragons, qui a une licence spécifique. On va revenir en détail dessus. Sébastien, toi, tu as publié et tu publies des jeux de rôle et des jeux sous licence libre ou moins libre?
Alors, en fait, moi, quand je rencontre un auteur, on a une discussion sur ce qu'il souhaite faire. Et c'est vrai que le métier d'éditeur, c'est de mettre en page, d'illustrer, de commercialiser, de diffuser et de faire la promotion. Donc, il y a des auteurs qui vous disent que ils souhaitent absolument que vous vous occupiez de tout et ils sont en relation de confiance ou ils sont... un parti pris. Enfin, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est l'édition. Et puis, vous en avez qui vous disent, bah oui, mais moi, en fait, j'aimerais aussi que l'œuvre reste accessible de telle ou telle manière. Et donc, on adapte les contrats. Et c'est vrai que, par exemple, sur les jeux de société inspirés du jeu de rôle, puisqu'il y a, pour le coup, pas de meneur de jeu, sur ce qu'on publie chez For the Story, l'œuvre, en fait, c'est une série de questions et des énoncés qui sont sur des cartes. Et en fait, ces jeux, ils sont d'abord proposés sur une interface de navigation sur un site web. C'est comme ça, d'ailleurs, que moi, en tant qu'éditeur, je les trouve. Et en fait, quand on en fait un produit, c'est-à-dire que, voilà, on met le texte sur les cartes, on les illustre, on choisit les moyens de production, on met en boîte, en fait, on laisse l'œuvre sur le site gratuitement, à l'usage, comme c'était au départ, parce que bah, c'est la volonté des auteurs qui sont dans cette mouvance-là. Et que, par ailleurs, comme souvent dans le jeu, quand on fait ce genre de choses, ça a aussi une vertu, en fait, pour l'éditeur. C'est-à-dire que je pense que si vous essayez via ce biais-là et que ça vous plaît, si l'incarnation produit de l'éditeur vous plaît, bah vous irez. Si elle vous plaît pas, vous continuerez à partager votre passion pour ce jeu et le bouche à oreille fera le reste, en fait.
Donc souvent, on entend une objection par rapport aux licences libres en disant « Mais si, tout le monde peut le reprendre, le modifier, même le republier, alors je perds... » Comment dire, je peux me faire dépouiller à n'importe quel moment. Toi, en tant qu'éditeur, ça te pose pas de cas de conscience.
Bah, en fait, la question c'est pas tellement si ça me pose un cas de conscience à moi, parce que de toute façon, en tant qu'éditeur, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est en fait l'esprit du droit français, c'est que l'éditeur travaille pour l'auteur. Donc moi, ma relation avec l'auteur, c'est trouver la forme adéquate pour lui faire rencontrer un public par rapport à ce qu'est l'image de ma société. Donc si lui, après, il a des ambitions autres sur d'autres supports, ou même sur des supports similaires, et qu'il veut d'autres débouchés, bah, j'ai envie de dire, si jamais j'ai pas envie de m'associer à cette démarche-là, faut pas que je lui propose un contrat, en fait. Donc c'est assez simple. Et puis ensuite, bah, c'est vrai que tout le monde va revenir dessus, mais le jeu de rôle, c'est une activité de co-création, c'est-à-dire que on prend un jeu, on y joue, et très rapidement, dès les premières minutes, en fait, on est amené à prendre des décisions, à avoir des arbitrages sur le déroulement de la partie, parce que c'est des jeux autogérés. Donc, en fin de compte, on est dans la création, dans la co-création, dans la transformation immédiatement. Donc, je pense que les gens qui sont dans ce loisir-là, en fait, ils sont, ils sont peut-être plus ouverts, en fait, plus sensibles à cette démarche-là que les autres. Même s'il y en a qui tiennent absolument à avoir des contrats très très rigoureux avec qui leur donnent beaucoup de gages, sans qu'ils voient qui ça leur donne aussi beaucoup d'obligations. Mais oui, je pense qu'on est une communauté qui, de toute façon, dès le départ, a le goût du partage, en fait. Elle ne vit que pour ça.
Ludovic, tu voulais réagir.
Je voulais réagir sur un point qui m'a fait réagir sur le fait de cette question basée sur le fait de se faire dépouiller, de se déposséder en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur de ce qu'on a écrit. Il y a quand même un aspect important dans le jeu de rôle. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui sont plutôt des libristes, je pense, qui sont plus habitués au logiciel qu'au jeu de rôle, j'aimerais juste faire un point rapidement sur ce point. Le logiciel et le jeu de rôle, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a, ce sont deux œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur, sur lesquelles il peut y avoir des licences, et qui proposent une mécanique, des algorithmiques, qui sont par elles-mêmes non protégeables, sauf aux États-Unis avec des brevets, mais on en reparlera, peut-être, et qui peuvent être donc protégées par l'auteur par des licences. Et il n'y a pas de dépossession dans le cadre du jeu de rôle, puisqu'à partir du moment où on met une licence libre, ou en tout cas une licence un peu permissive, qui permettrait d'utiliser le jeu de rôle, celui-ci va pouvoir être exploité par d'autres éditeurs, d'autres auteurs, ce qui va constituer une barrière à cette reprise, c'est l'existence ou pas d'un SRD, d'un document de référence du système numérique. C'est-à-dire que si ce que j'ai fait un jeu de rôle sous papier avec une licence mais qui n'existe aucune version physique, la barrière à l'entrée pour recréer le jeu, ça va être reprendre le texte, parce que je reprendrai le texte selon les conditions de la licence, mais pour ça, il faut que je le réécrive à la main, ou je fasse un OCR, et puis je corrige tout. C'est un peu de travail, mais il y a une barrière matérielle à l'entrée.
D'accord. Aujourd'hui, le jeu de rôle sous licence libre, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui vit vraiment, qui est un domaine qui a un peu son mouvement propre au sein du jeu de rôle, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste anecdotique ?
Alors moi, de ma vision, c'est souvent quelque chose de vu comme opportuniste. Bon, on va sûrement reparler du cas de Donjons et Dragons, mais il y a des initiatives qui sont prises des auteurs qui comprennent les licences libres et qui mettent leurs œuvres sous licence libre, qui, des fois, par chance, voient leur œuvre qui intéresse d'autres personnes, soit les règles, soit la philosophie. Par exemple, les jeux Powered by the Apocalypse, c'est pas des règles, c'est pas un système générique, mais en tout cas, il y a beaucoup de jeux qui se sont inspirés d'un même système. Et quand ça marche, ben, on voit qu'il y a une communauté, ça fait parler, et donc ça fait des jeux qui initialement peut-être étaient sur une niche, mais qui se sont fait connaître grâce à la communauté que ça a généré. Mais ça, on le sait jamais à l'avance. Et sur la question que tu posais juste avant, comment faire en sorte que les auteurs n'aient pas peur de se faire déposséder, ou un auteur ou un éditeur n'ait pas peur de vendre moins de livres de jeux de rôle parce qu'il y a d'autres personnes pourront réutiliser soit ses règles, soit son système complet, soit même son univers. Enfin, quand j'en parle avec des auteurs, moi je les pousse à ne pas mettre que le système, de pas juste faire un SRD, mais vraiment d'essayer de mettre plus de choses sous licence libre, c'est dire que ouais, mais si t'as pas juste une communauté de joueurs, mais aussi une communauté de créateurs qui vont enrichir ton jeu, enrichir ton univers, bah l'idée c'est pas de vouloir avoir toutes les parts de gâteau pour toi, c'est d'avoir un gâteau plus gros. Et ça, c'est souvent un argument que les gens peuvent finir par comprendre.
Sébastien, peut-être tu as.
Oui, bah après je pense qu'il y a des démarches de création qui sont très différentes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une œuvre qui leur est très personnelle, que ce soit un système de jeu, que ce soit un univers, ou même des fois des réflexions sur le dispositif. Parce que tu disais en introduction, c'est vrai que traditionnellement, les origines du jeu de rôle, c'est il y a un meneur de jeu qui arrive avec ses règles, sa proposition de scénariser, les autres font des personnages, et dans le dialogue, une fiction se construit. Mais aujourd'hui, il y a des jeux de rôle où il n'y a pas de meneur de jeu, il y a des jeux de rôle où on n'est pas forcément des personnages, mais on a la responsabilité de grands concepts dans un monde ou dans un type de fiction. Donc tous ces gens-là, en fait, ils ont pas la même relation à leurs testeurs, à leurs premiers lecteurs et à leur public futur, en fait. Donc, et c'est vrai que quand vous êtes dans une logique de co-création, bah assez rapidement, il y a des bonnes idées qui viennent pas de vous, et ces licences libres, elles permettent aussi de rassurer les contributeurs extérieurs du fait qu'il va y pas y avoir de querelle entre eux sur qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait. Mais après, je pense que c'est très différent. Enfin, ça peut exister de cette manière-là, et ça n'empêche pas un contrat d'édition. Parce qu'encore une fois, le contrat d'édition, les auteurs disent à un éditeur, on vous cède le droit de faire de cette œuvre un objet physique ou un objet incarné reconnu par le monde économique commercial dans un périmètre donné, et où on en attend, en fait, à la fois une belle incarnation, maquette, illustration, mais aussi une mise sur le marché par rapport à des points de vente. Donc, l'œuvre peut très bien être en Creative Commons et ils peuvent très bien céder les droits à un éditeur. Ils peuvent céder les droits pour un territoire, pour un périmètre différent. Ils peuvent garder certains droits pour certains supports. Donc ces démarches sont très diverses, en fait.
Très bien. Merci. Alors, on a eu une question sur le scandale avec Wizard of the Coast. Et voilà, mon plan est extrêmement bien fait parce que c'était un peu le sujet que je voulais aborder maintenant. On a évoqué Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle écrasant dans le domaine du jeu de rôle, hein, en termes de pratiques de vente, etc. On pourrait faire une émission entière là-dessus parce qu'il y a toute une affaire. Ludovic, est-ce que tu peux nous parler un peu de toute cette histoire dans un temps bref, ce qui est donc un défi à la mesure de ton talent.
C'est un véritable défi, car il y a tellement à dire sur l'histoire du le scandale Wizards of the Coast, Hasbro, qui est un scandale lié à Donjons et Dragons, qui va faire sourire beaucoup de libristes qui connaissent bien les problématiques de, on va dire, le mot freemium. En fait, la plupart des jeux de rôle, quand on parle du panorama, on a vu rapidement le panorama. On a assez peu, Amaury l'a souligné, lui, il encourage les auteurs à faire une libération totale, c'est-à-dire qu'aller sur du Creative Commons et idéalement ne pas forcément aller dans un Creative Commons qui n'est pas libre. On le sait, les Creative Commons non commerciales ou les Creative Commons sans modification ne sont pas des licences libres. Ce sont des licences de libre diffusion, mais non pas des licences vraiment libres au sens de la Free Software Foundation. Et je le donne en mille, Wizards of the Coast a choisi en 2000 l'OGL, la licence OGL, qui est une licence freemium, qui utilise des mécanismes de copyleft, en même temps qu'elle les fusionne avec des mécanismes, clairement, de licence privatrice, pardon, j'ai utilisé un terme stallmanien, de licence propriétaire, non, il va pas aimer non plus, Richard, donc de licence non libre, on va dire, et qui va donc, globalement, faire une distinction entre ce qui relève de l'identité du produit, en clair, les choses liées au monde Donjons et Dragons, les royaumes oubliés, les noms des personnages, et ce qui est plus générique des univers d'Heroic Fantasy, et ce qui concerne les règles. Les règles ne sont pas protégées par le droit d'auteur en tant qu'elles sont une algorithmique de règles de gestion, mais elles sont protégées par le droit d'auteur à partir du moment où elles sont matérialisées sous une forme particulière. Et pourquoi est-ce que Wizard a fait ça en 2000? Wizard a fait ça parce que il fallait donner un peu plus de ils ont racheté TSR, qui était éditeur ancien de Donjons & Dragons, et leur objectif était d'avoir une pénétration du marché extrêmement forte. Et on voit bien que lorsqu'on crée un logiciel libre, dans le monde informatique, il y a une pénétration très forte. Et cette mécanique de freemium, de freemiumisation de Donjons & Dragons, elle a très très bien fonctionné, puisque très vite, il y avait un système trois étages de la fusée, n'importe quel éditeur ou auteur pouvait récupérer le système de règles et créer quelque chose dessus. S'il voulait avoir un peu plus de règles, un peu plus d'éléments venant de Donjons et Dragons, bah, il devait passer un peu sous les fourches codines de Wizards of the Coast. Ça veut dire redonner une partie de ses bénéfices et de ses revenus à Wizards of the Coast, voir s'il voulait avoir le tampon Donjons et Dragons, il devait payer plus. Et le scandale dont on va parler, il vient juste après.
Ouais, voilà. Je suppose qu'il devait payer plus, et qu'en plus, il ne pouvait pas mettre n'importe quoi non plus dans son jeu, et qu'il fallait que ça reste dans les limites du raisonnable pour vendre et avoir un produit avec une image.
Exactement. Ouais. Donc, que se passe-t-il? Wizards of the Coast a longtemps parié sur le fait que, comme ils n'ont pas tout mis en licence libre, ils ont tout mis en licence copyleft, aucun éditeur ne se lancerait dans le travail qui consiste à compléter tous les bouts qui manquent. Or, en je ne sais plus quelle date, mais c'est 2006 je crois, Wizards of the Coast se fait racheter par Hasbro. Il y a une prolifération d'éléments de
96.
C'est 96, donc c'est beaucoup plus ancien.
Parce que désolé, je te coupe. La licence OGL est sortie en 2000 avec des 3.
Et donc il y a une version 3.5. Parce que Donjons et Dragons, enfin Wizards of the Coast, veut virer la prolifération des suppléments de mauvaise qualité. Et donc ils font une nouvelle version, ils font un fork de leur propre partie libre du système, comme les libristes qui nous écoutent sauront de quoi il s'agit. Et ce fork aboutit à ce que la communauté va les suivre. Sauf que ça prouve que quelqu'un peut faire un fork de Donjons et Dragons, même si cela c'était Wizards of the Coast, quelqu'un peut faire un fork du système et la communauté va suivre s'ils sont mieux disant techniques. Ça va parler à beaucoup, pareil, ça va parler beaucoup aux gens qui connaissent le monde du logiciel. Qu'est-ce qui se passe maintenant, là, il y a un an, Wizards of the Coast est revenu, bon, ils ont fait une version 4 de Donjons et Dragons dont nous ne parlerons pas, qui était sous une licence complètement propriétaire, qui n'a pas du tout marché, peut-être pour cette raison-là, et qui a poussé beaucoup de gens vers le fork qui avait fonctionné, parce qu'il y a un éditeur qui est Paizo qui a fait ce fork, en fait, très fort, très complet de Donjons et Dragons 3.5, et ça a poussé les gens vers Paizo. Donc pour reprendre le contrôle, également pour prendre en compte des éléments qui n'existaient pas au moment où Donjons et Dragons 3 et 3.5 sont sortis, qui sont la monétisation des vidéos de parties sur Internet, sur des chaînes, des plateformes de vidéos. On voit de plus en plus de contenus monétisables basés sur Donjons & Dragons, des gens qui sont en train de jouer à Donjons & Dragons. Je ne vois pas l'intérêt à titre personnel, mais il y a des gens qui... ça rapporte de l'argent. Et donc, pour faire ça, et puis il y a des versions de Donjons & Dragons, des jeux vidéo, ainsi de suite. Pour faire ça, il y a une nouvelle licence, la OGL 1.1 qui est sortie, qui a vraiment déclenché un tollé, puisqu'elle avait deux particularités. Elle créer à nouveau déjà elle était limitée complètement aux œuvres dérivées textuelles et illustratives, donc on oublie la partie vidéo, jeux vidéo, partie en ligne. Et surtout, elle mettait non plus une distinction sur ce qui est le copyleft ou pas copyleft, elle mettait une distinction entre le commercial et non commercial. Et globalement, à peu près tout était commercial, ce qui fait que dès qu'il y avait le moindre début de commencement de centime de revenus, on passait dans le domaine commercial. On n'est pas forcément à payer à Wizards of the Coast. En revanche, les droits de toute œuvre dérivée de Donjons et Dragons étaient automatiquement cédés, de manière non exclusive, mais quand même concédés à Wizards of the Coast, qui pouvait donc contrôler les revenus, parce qu'il y a aussi une clause de contrôle des revenus, des éventuels forks, des éventuels éditeurs ou auteurs qui voudraient faire une version de Donjons et Dragons, contrôler l'essor de leur vente, et puis aussi tout simplement contrôler le contenu, le reprendre, le réintégrer dans Donjons & Dragons et étouffer dans l'œuf tout concurrent potentiel. C'était vraiment la licence anti-Paizo. Ça a fait un tollé et ils ont rétro-pédalé énormément, mais oui, le mal était fait.
Voilà. Donc il y a vraiment une logique hégémonique dans cette évolution. Mon sentiment à l'époque, quand il y avait eu l'OGL au début, c'est que déjà il y avait un peu cette volonté d'écraser tout ce qu'il y avait autour. Je sais pas, Sébastien, est-ce que tu valides mon hypothèse?
Il faut revenir un peu en amont sur ce cas-là, parce que, en fait, dans l'histoire de Donjons et Dragons, il y a eu plusieurs entreprises qui l'ont produit, contrôlé, maîtrisé. Et en fait, dans les éditions précédentes, il y a eu des querelles entre les propriétaires de l'entreprise, les éditeurs du jeu, les éditeurs de certaines versions du jeu. Et ces querelles, en fait, elles sont passées dans le domaine public parce que, bah voilà, le jeu de rôle étant une activité de bavardage, le bavardage ne s'arrête pas à la table de jeu et très vite les choses filtrent. Je pense que le jeu de rôle, c'est un milieu où on a des leaks avant même que le mot existe. Et donc, il y avait dans la communauté et même dans les gens qui étaient amenés à proposer des contenus d'Heroic Fantasy, cette idée que, de toute façon, dès qu'on commence à toucher de près ou de loin à ce qui ressemble à Donjons et Dragons, les propriétaires de ce jeu nous attaquent. Ils nous font des procès vraiment où là, sur le droit américain, c'est-à-dire en disant, voilà, on est basé par exemple à Seattle, vous devrez venir à Seattle pour vous défendre, et on va organiser la procédure de sorte que bah vous choisirez pas à quel moment vous devez venir, vous recevrez régulièrement des injonctions pour produire une documentation, et en fait, ça va vous générer des frais d'avocat qui fait que c'est perdu d'avance. Et quand Wizards of the Coast prend le contrôle de Donjons & Dragons, eux, ils ont cette idée que, en fait, ça, c'est préjudiciable, il faut mettre un terme à tout ça, et il faut envoyer un signal très très fort sur le fait que c'est du passé et plus personne ne se comportera comme ça avec un fan. Et en même temps, ils sont un peu dans le creux de la vague, parce que ce qui fait qu'une autre entreprise aussi florissante que Wizards of the Coast dans le jeu spécialisé peut se payer Donjons & Dragons, alors que c'est le gros succès du jeu de rôle et de la littérature interactive, en fait, imprimée sur le monde anglo-saxon, c'est bien que cette entreprise, elle avait des difficultés et qu'elle était achetable, en fait. Et donc, eux, leur objectif, c'est de se dire, bah, nous, il faut qu'on repérennise ce loisir, parce que les gens de Wizards of the Coast, qu'on crée Magic, ils viennent aussi de là, en fait. Donc, ils ont une relation affective qui est de se dire, rendons à Donjons et Dragons sa gloire passée et faisons en sorte que ce qui nous colle au basket disparaisse et créons une opportunité pour que tout le monde ait envie de nous aider. Et c'est en ça que l'idée de la licence libre, va arriver parce que ça paraît être le bon outil pour se remettre bien copain avec tout le monde. Mais en ayant une arrière-pensée, c'est que Wizards of the Coast, à ce moment-là, sait déjà qu'ils sont dans des négociations pour vendre leur entreprise à un géant du jouet. Ils savent pas encore qui. Et donc, ils ont aussi le souci de s'assurer que, d'une certaine manière, Donjons & Dragons sera protégé de ses prochains propriétaires. Et que leur lien avec la communauté restera, parce que c'est ça qui les préoccupe aussi beaucoup. Donc, il y a eu, je pense, des intérêts, des objectifs, pas forcément faciles à concilier. Et puis, après, ce sont des hommes comme les autres. Les directions changent, les gens en responsabilité bougent, il y a des maladresses. Et puis, à un moment donné, Donjons & Dragons devient extrêmement fort sous un nouveau propriétaire, au point que dans le contrôle de gestion, il arrive à un niveau où c'est d'autres gens du groupe qui regardent et qui trouvent que s'il y a eu cet effet de levier, on doit pouvoir monétiser encore plus fort. Et leur licence, qui n'est pas libre, ne leur permet pas, en fait. Et pendant ce temps-là, bah, les phénomènes digitaux se sont beaucoup développés et il y a effectivement des gens qui brassent des millions de vues, qui monnaient leur audience, qui font de la publicité, des produits dérivés, avec leurs dérivés de cette licence. Et les propriétaires de Donjons & Dragons se disent, mais enfin, comment ça se fait qu'on ne touche pas notre part?
Oui, oui, tout à fait. Amaury, tu voulais réagir?
Ouais, bah, pour compléter un petit peu, je veux dire, alors, des informations que moi j'ai glanées, effectivement, quand TSR éditait Donjons & Dragons, et donc avec Advanced Dungeons & Dragons, il y avait une gamme qui était pléthorique, avec plein d'univers et énormément de livres, qui se cannibalisaient entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus de joueurs, mais les joueurs achetaient des livres différents, donc ça coûtait très très cher à maintenir. Et la réflexion de se dire, bon, nous ce qu'on veut vendre, c'est le triptyque guide du joueur, guide du maître et le bestiaire monstrueux. Ça, c'est ça qui nous rapporte de l'argent. Par contre, un jeu comme Donjons et Dragons doit avoir des univers. Bah, faisons en sorte que ce soit les autres qui prennent le risque financier d'éditer les univers, et tout le monde sera content. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, et ça a très très bien marché. Il n'empêche que le redémarrage du jeu de rôle dans les années 2000, là où dans les années 90, ça s'était quand même cassé la gueule aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ça a été grâce à ça. On peut dire que c'est un peu artificiel, mais c'est quand même grâce à ça. Moi, ce que je reproche, c'est qu'ils aient créé une licence qui s'appelle l'Open Game License, qui semble dire que c'est une licence libre faite pour les jeux en général, alors que c'est vraiment fait pour les besoins de Donjons et Dragons, très spécifiquement. Et si on fait une avance rapide, Hasbro, donc, qui avait racheté Wizards of the Coast, ont eu des problèmes financiers. Ils ont quand même licencié 1000 personnes il y a un an, à une vache près. Mmh. Et donc forcément, il y a sûrement... Alors on peut imaginer hein, qu'il y a des financiers qui sont entrés dans la boucle, et comme ça a été dit, on se rend compte que, mais attendez, alors, ouais, surtout Paizo, c'est quand même le gros qui a réussi à tirer les marrons du feu, ils ont dû se dire, bah ouais, mais attendez, eux, l'argent qu'ils gagnent, c'est de l'argent qui doit nous revenir à nous. Donc ils sont dit, bah, on va changer les choses. Et voilà.
C'est le mécanisme de merdification qui a été.
Je ne sais pas si vous connaissez,
Cory Doctorow.
Tout à fait.
Voilà, c'est un sujet. Ludovic, tu voulais. Peut-être dire quelque chose. On va bientôt faire une pause musicale, mais si tu veux.
Hyper rapidement. Il y a une. J'entends bien. En fait, je partage complètement les points de vue en fait de mes compagnons ici. Le point que je voudrais préciser, c'est qu'il y a eu une erreur qui a été faite, je pense, à un moment par un juriste quelque part, en écrivant la licence OGL 1.0A qui a été qui a vécu plusieurs versions. Qui est lié au droit américain. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? C'est une grande question. On voit bien que les gens qui ont créé, Sébastien a raison, les gens qui ont créé Donjons et Dragons 3e édition et 3.5, quand ils ont créé la licence OGL, ils ont dit l'important c'est qu'elle soit perpétuelle, c'est que les gens puissent continuer de l'utiliser. Et qu'est-ce qui le prouve? C'est qu'il y a un article dans lequel, c'est l'article 9 de la licence OGL qui dit que dans le cadre de la mise à jour de la licence, Wizards, donc, et Wizards of the Coast et ses agents désignés peuvent publier des versions mises à jour de cette licence et on peut utiliser n'importe quelle version de cette licence pour copier, modifier et distribuer tout contenu de jeu ouvert distribué à l'origine sous n'importe quelle version de cette licence. Ça veut dire que théoriquement, la licence OGL, qu'elle soit en deux, version 3, version 99 ou version 2500, de toute manière, n'importe qui pouvait prendre n'importe quoi. Et c'est un juriste de Hasbro qui est revenu en arrière et qui a déclenché le scandale en disant le cas, il y a un mot qui est important, c'est version autorisée de la licence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désautoriser la licence pour éviter cette compatibilité ascendante et descendante de toutes les licences et de tous les contenus entre eux. Et en faisant ça, on va pouvoir imposer une nouvelle licence. Et donc, on a vu que ça n'a pas fonctionné.
Voilà. Donc, très bien. Donc, juste pour, on sera d'accord, on l'a pas mentionné. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent qui circule dans le jeu de rôle, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors, on va faire une petite pause musicale. Et vous allez souffrir parce que le titre de la chanson est en allemand. Et voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé allemand. Donc, c'est Die große Liebe, donc le grand amour, par Die Lehre im Kern deiner Hoffnung. Excusez-moi. Donc, sous licence CC BY-SA 3.0.
Donc, nous venons d'écouter, et c'est Luc qui va qui va le dire.
Alors, tu veux pas essayer, tant pis.
Même pas.
Donc, Die große Liebe par Die Lyre im Kern deiner Hoffnung. Désolé pour les germanophones. Donc, sous licence Creative Commons by SA 3.0. Donc, nous sommes sur Cause Commune. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Très bien, nous sommes de retour. Alors, en régie, Mag et Isabella m'ont dit qu'il y avait pas mal de réactions sur Internet, donc le sujet plaît, donc très très bien. Ça fait plaisir. On a parlé de l'OGL, donc sujet interminable, mais le bilan qu'on peut en faire, c'est que en fait, c'est plus un sujet de gros sous qu'un sujet de jeu de rôle. Et la question que je me pose, qu'on a... comment dire, survoler, ou en tout cas commencer à évoquer tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui peut motiver un auteur et un éditeur. Alors Sébastien, toi tu t'es déjà prononcé là-dessus, mais en tout cas, qu'est-ce qui peut motiver un auteur à publier sous licence libre plutôt que sous une autre licence? Donc Amaury, peut-être que toi qui publies du jeu de rôle sous licence libre, tu as une opinion là-dessus.
Il y a déjà le concept très connu de on est des nains sur les épaules de géants. Et de manière générale, le domaine de la création, on crée pas ex nihilo quelque chose d'absolument original qui ne sort que de notre cerveau. Donc forcément, on réutilise des concepts, des idées qui sont venues avant nous. Si on a un tant soit peu d'humilité, on se dit qu'il y a des gens qui vont peut-être pouvoir se hisser sur nos épaules et qui deviendront eux-mêmes des géants. Et nous monterons sur leurs épaules en retour. Et quand on a ça en tête, on se dit que le but, c'est de créer tous ensemble, de faire en sorte que ce soit utile. Alors, dans le cadre du jeu, utile, c'est quelque chose qui est agréable à jouer, qui fait qu'on a envie d'y jouer. Les créateurs de jeux de rôle ne sont pas des gens qui veulent créer quelque chose de très très beau, mais qui reste juste dans leur coin, ils ont envie de le partager. Enfin, c'est la notion même de notre activité. Donc voilà, je pense que le point de départ, c'est ça, c'est qu'on a envie de partager. Et comme le disait Sébastien tout à l'heure, de fait, dans le jeu de rôle, les gens sont naturellement ouverts parce que c'est l'essence même de notre loisir. Et quoi de mieux que les licences libres où on dit factuellement, allez-y, prenez, améliorez l'œuvre, partagez-la, diffusez-la, corrigez-la, étoffez-la, traduisez-la, vous avez le droit. Il y a eu par le passé tout un tas d'éditeurs, on pourrait revenir sur TSR, on vient d'en parler beaucoup, mais qui cherchaient même à tuer les productions faites par les fans. Dans leurs univers, donc très crispés sur leur création, sauf qu'on se rend compte là maintenant avec à peu près 25 ans de recul que c'est pas la bonne manière de faire vivre notre loisir.
Oui.
Même sous un angle purement économique. Hein.
Oui, oui. Alors ça me fait penser à pas mal de choses, donc ce sur le long terme, mais en dehors du domaine du jeu de rôle, hein, dans le monde imaginaire en général. Au début des années 2000, je m'intéressais pas mal à Star Trek et j'avais vu, il y a eu des sites internet sur Star Trek très tôt, hein, dans l'histoire d'internet, de l'internet grand public. Et au début des années 2000, le panorama s'est vraiment appauvri et tout le monde faisait des liens vers le site Star Trek, etc. Jusqu'au jour où ils ont compris qu'en fait, ils avaient besoin d'une communauté active. Mais en même temps, il faut pas que ça aille trop loin non plus. Il y a un projet qui s'appelle Axanar, hein, qui est une sorte de fanfiction d'un type qui vit à Hollywood et qui a réussi à lever je sais plus $1 ou 2 millions en financement participatif en faisant une sorte de pilote de la série qu'il voulait faire et qui faisait du Star Trek ancienne mode à l'époque où il y avait des nouvelles séries qui plaisaient pas aux fans. Et les ayants droit à Star Trek ont dit « Ah, c'est super, mais tu vas te calmer. Déjà, ton pilote, c'est une œuvre en soi et tu n'as pas le droit d'en faire plus de 2 de 20 minutes. » Donc ils ont besoin d'avoir des fans qui fassent vivre les licences, et on a plein d'autres domaines, on a le cosplay, on a tout le fan art, etc. Mais pas trop, et pas trop sérieux. Voilà, mais du coup aujourd'hui dans le jeu de rôle, enfin pour moi dans le jeu de rôle, il y a un peu cette question aussi de dire que par définition, le jeu de rôle, tu vas lui faire du mal. Enfin, c'est-à-dire qu'un auteur va écrire un jeu de rôle avec une idée de comment on va le jouer, et à partir du moment où le manuel va être dans les mains de joueurs et de meneurs, ils vont en faire ce qu'ils veulent, à commencer par des choses qui ne correspondent absolument pas à ce que l'auteur aurait voulu. Donc, est-ce que, je pense au droit moral en droit d'auteur, ou est-ce que finalement dans le jeu de rôle, le droit moral n'est pas caduque par définition?
C'est pour le juriste, ça.
Oui.
Luc a dit droit moral, alors ça tout de suite, ça aiguille. Pour ceux qui ne sont pas forcément très au fait du droit d'auteur, peut-être qu'il faut juste faire un petit cadrage très très rapide. Il y a deux volets au droit d'auteur en France, et le logiciel comme le jeu de rôle sont soumis à ces deux droits d'auteur. C'est le droit moral, le droit patrimonial. Le droit patrimonial, ce sont tous les droits, je ne vais pas les énumérer parce que d'une part je vais me planter et en plus ils sont sur n'importe quel site web. Tous les droits qui permettent d'exploiter commercialement une œuvre. Et le droit moral, c'est tout ce qui correspond au droit de l'auteur, la personne physique, sur son œuvre et ce qui lui permet de lui donner la paternité. C'est la paternité d'ailleurs, c'est le droit à l'intégrité de l'œuvre, droit au respect de l'œuvre, c'est le droit de retrait si jamais il a envie de considérer que non, le monde n'est pas prêt pour découvrir mon œuvre. Mais donc, est-ce qu'il y a une atteinte au droit moral? Ça dépend, en fait. À partir du moment où vous êtes en train de vous lire un livre de Victor Hugo dans l'intimité de vos toilettes, peut-être que Victor Hugo s'est dit non, c'est mes ouvrages, Le Comte de Monte Cristo ne se lit pas aux toilettes, il se lit uniquement dans un salon avec une bonne pipe ou un bon cigare dans le confort d'un fauteuil Chesterfield. Mais vous avez choisi de lire aux toilettes. Alors peut-être que vous le lisez dans des conditions qui ne sont pas celles choisies par Victor Hugo, mais vous avez acheté le support, le livre. Et même si l'œuvre, c'est ce qui est écrit sur le livre, vous avez acheté le support et vous pouvez en faire ce que vous voulez, y compris détruire ce livre. Ce qui vous est interdit de faire, c'est porter atteinte au lien entre Victor Hugo et le Comte de Monte Cristo. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas l'auteur, publiquement, que Victor Hugo n'est pas l'auteur du Comte de Monte Cristo. Vous ne pouvez pas non plus vous prétendre auteur du Comte de Monte Cristo. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Là où ça devient un peu compliqué, c'est quand... Donc ça veut dire que dans l'intimité du cercle de la famille, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un jeu de rôle, même s'il est incomplet. Par définition, un jeu de rôle est incomplet. Il manque, une fois que vous avez écrit en tant qu'auteur quelque chose, il manque quelque chose de très important, à savoir les joueurs et le meneur de jeu, s'il y en a un, pour raconter l'histoire que vous avez voulu, dont vous avez écrit la trame. Là où ça devient compliqué, c'est en revanche quand vous êtes dans un club où l'inscription est payante parce que vous faites partie d'une association. C'est lorsque vous êtes dans une convention où l'entrée est payante. C'est lorsque vous êtes sur Internet et que vous allez monétiser les vues de votre vidéo basée sur un jeu de rôle qui est basé sur quelque chose qui a été écrit par un auteur et édité par un éditeur. Et à ce moment-là, vous allez faire ce qu'on appelle une œuvre dérivée. Pour la plupart des libristes parmi nous, ça, bah c'est pas grave, tu n'as qu'à respecter la licence GNU/GPL car il n'y en a pas d'autres. Excusez-moi, j'ai eu un instant d'intégrisme. Mais c'est fugace, ça va passer. Pour n'importe quelle personne normalement constituée, on sait qu'il y a une licence qui va s'appliquer pour faire une œuvre dérivée. Donc l'œuvre dérivée sera soumise à la licence, potentiellement, sauf bien sûr si c'est une licence permissive, on peut refermer évidemment l'œuvre dérivée. Mais pour un jeu de rôle, c'est plus compliqué. Parce que si le jeu de rôle il est sous une licence par définition non libre, je donne l'exemple de l'OGL qui a des mécanismes copyleft mais qui reste une licence freemium, qui appartient à un éditeur qui veut des gros sous, à savoir Donjons et Dragons, Wizards of the Coast, pardon, on en a parlé tout à l'heure, ça pose une difficulté. Vous allez, quand vous allez filmer votre partie et vous diffuser sur Internet, vous allez faire une œuvre dérivée, vous allez monétiser une œuvre dérivée de quelque chose qui est préexistant. Et évidemment, ça va être compliqué pour le titulaire des droits de venir vous solliciter et vous demander de l'argent. Mais c'est pas impossible.
Et si on n'est pas que dans le domaine de l'argent, tu peux imaginer faire des misères à un univers. Moi, j'ai des souvenirs de lycéens où j'avais un copain qui était un grand fan de l'appel de Cthulhu. Et quand il était au collège, ces joueurs mettaient un canon de 75 à l'arrière d'un camion, ils allaient dans les marais et ils tuaient des profonds, en mode boucherie. Voilà. Sébastien, pour toi, qui, je pense, a vu beaucoup d'auteurs de jeux de rôle, est-ce que tu aurais des cas ou des idées comme ça de d'auteurs qui souffriraient de voir leur jeu maltraité, détourné,
Alors, je sais pas s'ils en souffrent parce que très tôt, moi, je leur dis quelque chose qui fait que ils ont pas tellement envie de se confier. C'est que on a souvent des discussions quand on édite un jeu sur est-ce que la règle est bien claire, est-ce que l'énoncé est pertinent, est-ce qu'on simplifie, est-ce qu'on a bien mis l'exemple, est-ce que vraiment, indépendamment de l'application, est-ce que l'esprit est compris. Et il y a toujours un moment où ces discussions deviennent un peu très aiguës parce que voilà, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est sur le sujet. Et quand je dis à l'auteur, tu sais, en fait, quelle que soit la décision qu'on prenne, il y a quand même une chose qui est incontestable, c'est que ni toi ni moi ne serons là lorsque ce sera joué. Et demande-toi combien as-tu joué à deux jeux tels qu'ils sont écrits. Et souvent, ils me répondent, ben, aucun, évidemment. Sinon, j'aurais pas fait le mien. D'accord. Bon, alors, enfin, donc, voilà, enfin, tout est dit, en fait. C'est, oui. Et puis, dans le jeu de rôle, depuis quasiment le début, il y a des chapitres entiers, voire même des livres entiers. C'est le deuxième livre de Donjons et Dragons dont on parlait auparavant, n'est rien d'autre qu'un manuel qui pourrait se résumer ainsi. Comment vous allez hacker le jeu? Créer vos créatures, créer vos classes, créer vos modifier, etc. Donc, de toute façon, déjà, dès le départ, il y avait ce côté de jouer comme vous voulez, en fait. Alors, maintenant, avec l'émergence du jeu de société, les jeux de rôle, ils sont un peu moins... Enfin, il y a eu un moment où le jeu de rôle, c'était on fait un système de règles qu'on veut simulationniste et on doit pouvoir tout jouer, tout faire dans un monde donné. Aujourd'hui, ça s'atténue petit à petit. De plus en plus, les jeux de rôle deviennent... Non, en fait, dans cet univers-là, vous jouerez ces gens-là qui ont ce but-là. Et les règles qu'on a fait, elles sont pour simuler ce regard, cet angle dans cet univers. Et on commence à avoir même des univers qui ont plusieurs modes de jeu en fonction de qui on joue et auxquels enjeux on se confronte. Mais malgré tout, ça change rien. C'est un loisir qui repose sur la conversation. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui avait dit aux États-Unis, mais en fait, il faut jouer pour voir ce qui va se passer. Et quel que soit le jeu auquel vous jouiez, qu'il soit très simulationniste ou pas, la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole, quelqu'un d'autre va lui répondre, et quelques heures plus tard, quand on va arrêter, tout le monde va se dire, non, mais en fait, j'aurais jamais imaginé que quand la conversation a commencé tout à l'heure, ça nous emmènerait là en termes de co-création. Et c'est parce que on a cette sensation qu'on y revient.
Oui. Tout à fait.
Oui. Si je peux me permettre, sur le sujet de quels sont les freins à l'utilisation des licences libres, quand j'en parle avec d'autres auteurs et que j'essaye de leur mettre en avant l'intérêt des licences libres à mes yeux, les deux freins qui me sont exprimés la plupart du temps, c'est soit philosophique, soit commercial. Philosophique, c'est ouais, mais j'ai pas envie que mon système, même si c'est juste les mécanismes de jeu, on parle pas de l'univers, même si c'est que les mécanismes, j'ai pas envie que ce soit utilisé pour un jeu fondamentalement raciste ou qui prône des valeurs qui ne sont pas les miennes. Et l'autre ensemble de rejets, c'est ouais, mais je voudrais pas que quelqu'un puisse reprendre mon jeu, le vendre dans une édition de qualité dégueulasse et en vendre plein. Alors, pour le deuxième cas, ma réponse c'est ouais, mais si quelqu'un... Ah, on nous remonte, les règles sont faites pour être contournées comme dans la vie. c'est une manière de voir les choses. Si quelqu'un montre que ton jeu peut être vendu dans un format différent, bah ça peut soit toi t'amener aussi à revoir la manière dont tu vas commercialiser ton jeu et ouvrir une nouvelle ligne de production. Toi, tu peux te dire que les gens qui vont acheter la version cheap de ton jeu ne l'aurait de toute façon pas acheté dans l'édition que toi tu as faite qui coûte 5 fois plus cher. Donc ça cannibalise pas forcément. Bon, ça c'est valable jusqu'à un certain point évidemment. Et sur le premier argument, bah, y a un côté très, très concret, c'est est-ce que quelqu'un qui voudrait faire un jeu qui ne respecte pas tes valeurs, tu penses, va vouloir à tout prix utiliser tes règles à toi? Ne penses-tu pas que ça va se savoir dans le milieu et que donc ce jeu de toute façon a peu de chance d'être joué? Et combien y a-t-il réellement sur le marché du jeu de rôle, des jeux qui ont rencontré un succès et qui prônaient d'une manière très claire des valeurs qui ne sont pas des valeurs assez, assez partagées, assez consensuelles. Et donc, voilà, il y a quand même un aspect entre la théorie et la pratique, il y a une différence, et on se rend compte qu'en pratique, les vrais freins sont assez peu réels,
ah oui.
Je trouve.
Ok. Très bien. Bon, j'ai un sujet qui n'a... Ouais, avec aucune transition, mais qu'on avait évoqué, qui était par rapport au contexte dans lequel on évolue, le jeu de rôle a changé malgré tout. On parlait tout à l'heure de l'actual play, les gens qui jouent sur Internet. Avant, effectivement, le jeu de rôle, sauf convention, c'était dans le cercle privé. En convention, c'était public, mais il y avait quand même un public très limité. La plupart du temps, c'est des gens qui jouent dans une salle, dans un lieu public. Aujourd'hui, effectivement, il y a cette dimension Internet où ça devient une interprétation d'une œuvre publique. Il y a maintenant des logiciels d'aide. On continue à jouer sur table en parlant, mais on va projeter sur des télévisions, des plans, utiliser des logiciels d'aide, des choses comme ça. Ça évolue pas mal. Et il y a les fameuses IA génératives dont tout le monde parle actuellement. Est-ce que, pour vous, voyez... comment dire, un changement à l'horizon avec ce genre de technologie, ou d'autres d'ailleurs auxquelles je n'aurais pas pensé. Sébastien?
Oui, pour une raison simple, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on aborde depuis le début de notre entretien qui sont en fait déjà liées à des mutations techniques et technologiques. Je pense que, pour reprendre l'histoire de Donjons et Dragons, avant que Wizards of the Coast rachète la société, ce qui fait qu'ils étaient très agressifs sur beaucoup de démarches de passionnés qui créent leurs univers et leurs scénarios, c'est parce qu'il y avait une prolifération des photocopieurs dans beaucoup d'environnements professionnels, et que donc le reproduire du livre n'était plus l'apanage d'un donneur d'ordre, d'être un imprimeur. Là, aujourd'hui, ce qui suscite l'appétit des nouveaux propriétaires, c'est de constater qu'il y a des gens qui achètent des campagnes officielles, qui les jouent avec des amis et qui se filment. Et alors, si en plus ces gens-là sont vraiment des acteurs, voire ont des réseaux dans l'audiovisuel, ils vont se retrouver dans une situation où non seulement ils vont monnayer leur audience, mais ils vont faire les propres dérivés de leur propre œuvre première audiovisuelle, et va y avoir une discussion de savoir qu'est-ce qui est dérivé de quoi, et comment, et pourquoi, etc. Parce que, oui, on aura joué avec vos règles, mais c'est mon personnage, je l'ai créé. Et puis d'ailleurs, on a joué dans ton monde, et c'est toi qui l'as créé. Et d'ailleurs, c'est un tel qui a dessiné la carte, et tout ça n'est pas dans la propriété de Wizard. Donc, aujourd'hui, oui, il va y avoir de nouvelles mutations, ne serait-ce que parce que une nouvelle génération d'auteurs émerge, et puis une autre viendra, qui ne se sera pas dit, pour publier un jeu de rôle, en fait, il faut produire un manuscrit, l'envoyer à un éditeur de livres pour qu'il l'imprime. Il va se dire, moi, je vais faire un site, ou je vais faire un fichier Trello, ou faire un fichier Evernote, parce que quand même, pour avoir une lecture tabulaire, c'est quand même vachement plus pratique. Ou même va se saisir de solutions no-code et va se dire, moi, je te fais un livre applicatif comme ça, vite fait, je le mets en ligne, y compris sur une plateforme avec un flux de rémunération. Donc, j'ai pas besoin de l'éditeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de l'éditeur, c'est pas que ça, en fait. C'est pas seulement concrétiser la forme. Donc oui, voilà, des mutations, il va y en avoir d'autres. Et par rapport aux IA, voilà, je pense que de toute façon, parler de ça, c'est genre, je prends le risque, parce que de toute façon, je crois quoi qu'on dise, on sera la proie des colibets. Mais moi, je me souviens du moment où Photoshop vraiment se développe et où des gens commencent à dessiner et à peindre avec Photoshop. Et on nous expliquait que non, mais moi, j'achèterais pas de jeu de rôle dont la couverture aura été faite sous Photoshop en peinture digitale, parce que c'est pas ça de l'illustration. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui sont illustrés par de vraies illustrations. Et je vais même aller plus loin que ça. De par la dimension du marché, il y a beaucoup de jeux de rôle qui ne sont même pas édités avec des vraies illustrations digitales, mais sont plutôt du speed painting, ce qui n'accepterait même pas en concept art dans un studio indépendant de jeux vidéo. Mmh. Donc voilà, il y a les choses évoluent. Il y a des innovations technologiques, il y a des contraintes de dimension de marché qui fait que la forme va changer et que tout ça va être intégré.
Ludovic.
Oui. On parle d'IA, alors il faut quand même un petit peu cadrer dans le droit, non? Je crois pas. Enfin, je pense que c'est toujours important.
C'est sûr.
Oui. Le droit de l'IA. Il n'y a pas pour l'instant, alors j'entends souvent dire oui, mais l'IA, c'est un vide juridique. Pour l'instant, en quelques années de droit, j'en ai jamais rencontré. On a beaucoup parlé, mais je ne l'ai jamais vu. Alors peut-être qu'il y a un trou noir juridique quelque part dans l'espace, mais pour l'instant, j'en ai jamais vu. Et l'IA, il n'y a pas de vide juridique. C'est l'IA, c'est quoi? C'est le fait de prendre des œuvres préexistantes qui peuvent avoir des licences ou pas. Le fait de les utiliser pour entraîner un réseau neuronal et ensuite demander au réseau neuronal, qui est un logiciel, de faire un output génératif. Le fait de prendre des œuvres existantes et d'entraîner un réseau neuronal avec des œuvres préexistantes, c'est faire une exploitation de l'œuvre préexistante. Pour ça, il y a besoin d'un truc vachement important, ça s'appelle un droit patrimonial. Le droit de représenter au public, déjà, et puis de manière générale, le droit de reproduire l'œuvre, le droit de s'en servir. Il faut les droits de l'auteur, globalement. Alors, pour des œuvres qui sont en Creative Commons, tout court, en Creative Commons Attribution, ou même Creative Commons tout court, zéro, ça ne pose évidemment aucune difficulté. Idem pour des œuvres qui sont sous une licence BSD, MIT, puisqu'on a des gens qui aiment le logiciel, qui nous écoutent, ça ne posera jamais aucune difficulté. En revanche, pour des œuvres propriétaires, ou des œuvres qui sont sous des licences type GPL, GNU-GPL même, parce que il n'y a pas de licence GPL, il n'y a qu'une licence GNU-GPL, il faut bien le rappeler. Là, à ce moment-là, clairement, les obligations de réciprocité de la licence doivent s'appliquer, devraient s'appliquer à ce qui est généré par l'IA. Parce que quelle que soit la manière dont l'IA va traiter par son réseau, par s'entraîner, en fait, faire un output à partir d'un input, il y a cet output à partir de l'input. S'il n'y avait pas eu l'input, il n'y aurait pas eu l'output. S'il n'y avait pas eu cette entrée, il n'y aurait pas cette sortie. Donc cette sortie, c'est une œuvre dérivée de l'entrée. Comme il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards d'œuvres qui sont en entrée, on se retrouve avec une sortie qui est une œuvre dérivée de milliards d'œuvres en entrée. Donc, pour moi, il n'y a pas de dilution des droits, il y a juste un un problème d'exploitation. Alors, il y a eu des décisions de jurisprudence aux États-Unis qui nous disent l'IA ne peut pas être auteur. Il ne peut pas y avoir de lien entre une personne physique auteur et une œuvre créée par une IA. Évidemment, puisque l'IA, c'est un logiciel. Un logiciel n'a pas de personnalité morale. Ce n'est pas une personne. À la rigueur, on peut imaginer, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche à titre personnel, que quelqu'un qui a une super idée pour faire un prompt puisse avoir un lien ténu avec une œuvre utilisée. Mais maintenant, même ChatGPT est capable de faire des images sans prompt. Donc c'est même ce savoir-faire du prompt qui pouvait être vaguement justifiable, on peut le mettre de côté. Il peut plus y avoir de lien entre la personne qui demande une image générée et cette personne. Et donc ces images générées, elles sont sans auteur. Pour moi, elles s'intègrent dans un processus de création. Il faut les prendre comme quelque chose qui est naturellement, à condition qu'elles étaient créées de manière légitime, à savoir qu'il n'y ait pas de droit d'auteur lésé à l'entrée. Si l'entrée est légitime, à ce moment-là, la sortie est légitime et elle s'inscrit dans un processus de création pour inspirer l'illustrateur, pour inspirer le photographe, pour aider à faire un mood board, par exemple, pour aider à créer de nouvelles choses, pour aider à représenter un élément qui pourrait être intégré dans une œuvre plus large, mais cette fois-ci qui sera faite à la main, avec ou sans Photoshop, ou par collage, peu importe. Ça va s'intégrer. L'IA, elle est maintenant incontournable, on va pas pouvoir faire sans. C'est juste une question d'adaptation.
Dans jeu de rôle ou ailleurs, la problématique est la même, c'est que ça va devenir un outil et la condition dans le juridique dans lequel on va pouvoir produire ces éléments est un problème pour tout le monde, en fait, au final. Amaury, tu as parlé tout à l'heure voilà, de licence libre, de l'intérêt que ça pouvait avoir. On a beaucoup parlé de du point de vue des auteurs. Est-ce que les joueurs, les rôlistes qui achètent des jeux de rôle devraient exiger des licences libres ou en tout cas favoriser des licences libres dans leur choix de jeux de rôle?
Alors, je pense que quand on est un tant soit peu éduqué sur les licences libres, ce qu'elles sont, ce qu'elles apportent, je dirais évidemment. Ça, pour moi, ça coule de source. C'est ce que je disais au début sur le fait que ça va complètement dans la manière dont on pratique le jeu de rôle.
En te posant la question à toi, je prends pas trop de risques.
Non, c'est sûr. Mais ce dont je me rends compte, moi, c'est que il y a une très très faible part des rôlistes qui savent c'est quoi les licences libres. Et souvent, c'est plutôt ceux qui sont des informaticiens à la base ou des informaticiennes, comme moi. Il n'y a pas de miracle. Et sinon, globalement, les gens ne sont pas éduqués sur le sujet. On peut pas leur en vouloir, hein, parce que, enfin, ça peut sembler pour beaucoup être juste une marotte de gens bizarres comme nous. Et du coup, les gens font souvent n'importe quoi. Et je donnais l'exemple tout à l'heure en disant que quand on crée sous licence libre, on dit aux gens prenez, allez-y, enrichissez, traduisez, etc. Mais on voit des traductions de jeux complètement illégales. Parce que les gens pensent que oh ben on est dans un univers qui est sympa, les gens sont cool, allez hop je le mets, je le diffuse sur internet, mais non en fait on peut pas le faire. Et avant, à une époque je faisais du jeu de société et je faisais des jeux de société que je mettais sous licence libre. Alors pour le coup des jeux de société sous licence libre il y en a vraiment pas beaucoup. Mais pour moi c'était une des raisons, c'était de dire voilà c'est un moyen d'espérer que ça puisse se diffuser et qu'il y ait des traductions qui se fassent sans que moi j'ai besoin d'être derrière de maîtriser le truc. Donc voilà. Chez les joueurs, ce serait pas mal qu'on réussisse à expliquer un peu plus c'est quoi les licences libres. Mais il y a des gens qui ont entendu parler une fois de la licence OGL et qui du coup pensent que tous les jeux sont libres. Y a même un créateur de jeu à qui je parlais de licence libre et il me disait oui, mon jeu est sous licence libre, en fait il n'y a pas de licence. Donc t'as pas tout à fait compris le concept. Bref, voilà.
Ok, très bien. Il y a un sujet qui, moi, me tient à cœur, qui est celui du financement participatif. Sébastien, je sais que toi, tu as recours beaucoup au financement participatif, mais c'est plutôt de la prévente, de ce que j'en sais.
Oui, alors ça, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives de relations commerciales participatives. Donc, historiquement, il y a le financement participatif, ça, effectivement, je vous expose mon projet, vous me donnez de l'argent, et il y a une forme de contribution. Et puis bah voilà, ça nourrit le projet. Et puis petit à petit, en fait, les plateformes qui faisaient ça dans le domaine du jeu, c'est vraiment devenu plutôt des précommandes participatives. Donc nous, c'est vrai que chez les Doux Singes, on a plutôt recours au modèle de précommande participative. Donc on va sur une plateforme où c'est clairement la mode, c'est-à-dire que juridiquement, c'est bien de la vente, c'est pas du financement. Donc c'est pas que vous avez une contrepartie, vous achetez effectivement quelque chose. Donc on a légalement, on est dans la relation du droit du commerce en fait. Et on a souscrit à ça parce que, en fait, depuis une quinzaine d'années, le jeu de société se développe beaucoup, touche un public de plus en plus large, mais le jeu de rôle, lui, reste quand même quelque chose, j'ai envie de dire, d'expert, en fait, d'une pratique très avancée, parce que demande de la préparation, parce que peut être chronophage, parce que demande souvent qu'il y ait un arbitre, enfin bref, il y a des prérequis à la pratique qui fait que, par rapport au marché, c'est comme ça, c'est plutôt, faut être plus expérimenté. Et du coup, les magasins, comme eux, ils achètent pour revendre, bah, ils ont de moins en moins de place à consacrer au jeu de rôle. Et ça devenait vraiment compliqué de s'assurer que la rencontre se fasse. Parce que autant la littérature ou le disque, c'est une certaine manière, c'est un marché de l'offre. C'est-à-dire que vous proposez la diffusion, qui met en distribution, les gens passent dans les rayons, ils servent, et toute la chaîne est rémunérée sur le prix final. Le monde du jeu, c'est pas ça, en fait. Nos clients, ce ne sont pas les gens qui jouent, qui les achètent en magasin, c'est les gens qui les achètent pour les revendre. Donc on a un intermédiaire très fort qui lui prend le risque financier, et donc il fallait trouver un moyen, alors qu'il avait de moins en moins envie d'en mettre en rayon de par les personnes qui venaient dans ces magasins, de garder le lien avec le client final, parce que c'est pas l'éditeur qui va changer toute la chaîne de valeur. Donc après, ces projets-là, ils sont avec des tickets d'entrée, des paliers qui sont très différents en fonction des ambitions artistiques, de l'audience, du type de jeu, du type d'univers. On a beaucoup parlé de Donjons et Dragons. Certains se disent peut-être parce qu'il est très connu, parce que c'est le premier, parce que ça fait 50 ans cette année. Oui, aussi parce que si vous faites de l'heroic fantasy, vous avez l'assurance d'avoir un très grand nombre de personnes que ça intéresse. Sauf que quand vous êtes éditeur, vous avez aussi envie de publier autre chose, et il y a des sujets où c'est pas forcément évident, et où vous aurez beau faire tous les efforts de marketing au personnel que vous voudrez, non, il faut aller parler directement au lecteur pour que même le revendeur, qui est censé être expert parce qu'il voit passer tout le monde, se rende compte qu'il y a un potentiel et de quelle nature il est.
Alors, on va bientôt s'arrêter. On fera un petit mot de la fin après la chronique de Laurent et Laurette Costi. Et on va écouter un morceau de Seb Cachotte, qui est un groupe qui fait de la musique sous licence libre et qui a recours au financement participatif, et eux se payent, c'est-à-dire payent leur temps de travail avec le financement participatif. Et évidemment, on ne sait pas ce que va donner la musique tant qu'on l'a pas entendue. Est-ce que tu penses qu'une formule de ce type-là serait faisable en jeu de rôle, si toi tu arrivais en disant écoutez, on va sortir un jeu de rôle, pour l'instant j'ai rien à vous montrer, mettez des sous sur la table et vous verrez bien ce que ça donne. Mais ce sera sous licence libre. Est-ce que tu penses que c'est jouable?
Je pense que ça peut fonctionner si la personne qui porte le projet a déjà une forme de notoriété. Soit parce qu'il a déjà publié, soit parce qu'il a une communauté. Ou alors qu'il a des arguments pour se positionner dans le genre, où il annonce l'incarnation d'une promesse, où tout le monde se dit « Ah ouais, cette idée-là, personne l'a eue ». Maintenant, je pense que... Enfin, au tout début des opérations participatives, franchement, c'était beaucoup ça. On ne savait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Mais plutôt qu'on a régressé, en fait.
Mais de nos jours, ça arrive encore. Enfin, ce sont des éditeurs connus qui peuvent porter des projets, mais on a souvent, au début de la campagne, juste quelques artworks, quelques illustrations, et...
Mais pour que ça marche...
Ça donne envie, et...
Pour que ça marche, il faut montrer plus que ça.
Ouais. Bon, donc le nerf de la guerre, c'est la notoriété au final, hein, c'est ça.
C'est la notoriété, et c'est de montrer que c'est suffisamment avancé. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le délai entre le moment où l'opération se termine et le moment où on livre. Parce qu'il y a eu énormément d'abus par des porteurs de projets qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et puis que la crise sanitaire et les confinements et les difficultés sur les matières premières et l'énergie ont amplifié les retards de livraison. Donc aujourd'hui, il y a une très très grosse défiance, et puis il y a eu une actualité... en ce moment, de gens qui mettent la clé sous la porte sans livrer. Donc c'est compliqué.
D'accord, très bien. Alors on va se retrouver après la pause pour donc les chroniques, voilà, pour faire un petit mot de la fin.